Regardons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Midi et des Poussières, c'est Raphaël qui vous parle en direct depuis le studio de Radio Barthas à Florac, et je suis accompagnée de Léo, salut Léo.
Salut Raphaël.
Et comme chaque mardi, mercredi et jeudi, on va passer une petite heure ensemble pour parler des événements qui s'annoncent par ici, pour écouter un peu de musique, il y aura aussi une revue de presse très sélective et quelques digressions. C'est parti, bienvenue dans Midi et des Poussières.
Midi et des poussières.
Et pour commencer cette émission, place à la danse. On va parler de l'association Ballet Brosse, association culturelle dédiée à la danse située à Florac. Et je suis ravie d'accueillir deux de ses représentantes, Gabi Almain, présidente, et Victoria Gavillet, bénévole active. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes venus aujourd'hui pour annoncer un moment important pour Ballet Brosse. Ça commence ce samedi 13 décembre, le matin, avec une AG de l'association qui sera suivie d'une AG extraordinaire dédiée au changement de fonctionnement de la structure, on y reviendra. Et puis dès l'après-midi, ce sont les portes ouvertes qui commencent et qui ne se refermeront pas avant le 18 décembre, presque une semaine pour venir découvrir les activités de Ballet Brosse. Et donc avant de revenir plus en détail sur ce programme, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter Ballet Brosse pour les auditeurs, auditrices qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore. C'est une association qui a été fondée en 86, qui va fêter ses 30 ans.
Donc, il va fêter ses 40 ans.
Ah, ses 40 ans. Pff,
l'année prochaine, c'est... oui. Juste une petite précision, en fait, les portes ouvertes, elles commencent le vendredi 12.
Ah d'accord, vendredi
12.
Donc,
ce qui veut dire que tous les cours du vendredi 12 jusqu'au jeudi 18 auront lieu sur le plateau de la Jeunette Verte au lieu que ça se déroule au studio. Ce qui permet effectivement d'inviter ses amis, sa famille, ses voisins, ses collègues de travail à venir regarder les cours. Et ça permet aussi aux élèves de découvrir les autres cours dans de très bonnes conditions.
Des grandes portes ouvertes. Et donc oui, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu quelles sont les missions de l'association ? Comment est-ce qu'elle est née ? Quelle est son ambition ?
Elle est née d'un besoin très fort de pratiquer la danse et de faire découvrir et apprécier la danse contemporaine sur le territoire. Et elle est donc née en 86, vous l'avez cité. Et elle vit grâce au studio de la Jeunette Verte depuis l'ouverture de la Jeunette. Et elle est maintenant représentée sur trois communes, puisqu'il y a aussi des cours qui sont donnés à Saint-Étienne-Vallée-Française et au Pont de Montvert.
Et on peut lire sur la page d'accueil du site internet de Ballet Brosse que les objectifs premiers, c'était d'aller à la rencontre des populations cévenoles avec comme vecteur artistique la danse. Est-ce que la danse, pour vous, c'est un bon moyen de rencontre ?
Ah, c'est un excellent moyen de rencontre. Danser, ça donne le sourire à tout le monde. Ça permet d'échanger, ça permet de se rencontrer, ça permet de passer des bons moments conviviaux. Ça permet de se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête.
Alors Ballet Brosse, c'est une association et comme de très nombreuses associations, elle fonctionne grâce à ses bénévoles. On va écouter quelques témoignages que vous avez compilés et qu'on peut entendre sur le site internet de Ballet Brosse.
Pour toi, c'est quoi alors d'être bénévole au conseil d'administration de Ballet Brosse ?
Eh ben, c'est comme dans toutes les associations, c'est être au service de l'association. Ben, bénévole, ça veut dire, comme le mot l'indique, apporter sa contribution là où on a bien envie.
Des moments qui sont parfois un peu exaltés parce qu'on est tous passionnés.
Pour moi, c'est faire ma part dans un tissu associatif dont j'ai bien profité pendant des années. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu mon tour de mettre la main à la pâte.
Toujours agréable de retrouver les copains et les copines.
Ce que j'aime à Ballet Brosse, c'est que c'est une association et que ce fonctionnement associatif, il permet de faire des propositions de danse. Bah, tout le monde, des propositions variées, devrait pour que ça reste, voilà, des choses très différentes pour des publics qui seraient pas dans une école de danse, mais qui seraient qu'on va chercher ou qui seraient pas tournés vers la danse en principe.
Avec souvent des petites choses à grignoter ou un coup à boire pour finaliser, comme ça c'est plus convivial.
Donc Ballet Bros fourmis de projets qui sont pas forcément les nôtres, mais quand on y participe et qu'on les voit éclore, et ben on est heureux.
Ce que j'ai bien aimé là récemment, c'est de travailler sur les statues, même si ça paraît pas très attirant pour la plupart des gens, mais moi ça m'a bien plu de revoir les statues de l'association de manière à ce qu'on puisse aller vers une organisation plus ouverte, plus collégiale.
Quand on y participe et qu'on les voit éclore, et ben on est heureux, on est heureux, on est heureux, on est heureux.
Alors on entend beaucoup de choses dans ces témoignages, hein, l'importance que les bénévoles mettent derrière leur mission, l'engagement, le partage. On sent que c'est pris très au sérieux, qu'il y a vraiment quelque chose d'important de s'engager pour cette association et dans le milieu associatif en général. Il y a combien de bénévoles à Ballet Bros ?
Oula, on est une quinzaine au CA et puis il y a aussi des bénévoles actifs comme Victoria qui ne sont pas membres du CA mais qui s'impliquent sur des événements ponctuellement comme les portes ouvertes ou le festival de la soupe ou enfin voilà ou la fête de fin d'année qui est un gros morceau qui demande beaucoup de petites mains à l'œuvre et oui. Ces gens sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'association.
Oui, si je peux ajouter Gabi, c'est qu'en fait on peut s'impliquer à différents degrés en tant que bénévole dans une association et à Ballet Bros par exemple, et donc on a des temps forts comme tu le disais, tenir un stand de grignotes à la fête de la soupe ou organiser la grande fête de Ballet Bros au mois de juin ou organiser les 40 ans prochains de Ballet Bros ou proposer d'autres projets autour de la danse. Et ça, c'est des petits groupes de travail qui se mènent, qui sont en lien avec le CA et dont on a besoin au quotidien pour venir soutenir la gestion que le CA fait auprès de l'association, avec les quatre professeurs, etc.
Les bénévoles sont essentiels. En fait, sans eux, l'association ne pourrait pas fonctionner.
Comme pour toute association, sans bénévoles, on ne tient pas.
D'ailleurs, vendredi dernier à Mende, il y avait le réseau Guide Asso qui organisait une journée dédiée aux bénévoles lausériens pour les mettre à l'honneur, les valoriser, leur permettre d'échanger, de se former, partager leur expérience. On a entendu différents témoignages et ce qui ressort beaucoup, évidemment, c'est le plaisir, la joie d'être bénévole, mais il y a aussi des difficultés, c'est pas toujours facile, ça prend beaucoup de temps. Comment ça se passe à Ballet Bros ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui est peut-être plus compliqué au sein de l'association ? Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe ? En tout cas, aussi mobiliser les bénévoles, je ne sais pas comment...
Oui, c'est préoccupant. Je pense que pour toute association, c'est le point difficile, c'est de mobiliser suffisamment de personnes et de les mobiliser sur toutes les actions qui sont menées. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait du roulement, qu'on puisse s'engager sur telle ou telle action, mais on n'est pas obligé d'être là à toutes les réunions ou sur toutes les actions. On peut s'engager sur un type d'action qui nous plaît et à ce moment-là, on peut le mener de bout en bout ou ponctuellement, suivant sa disponibilité.
Victoria, par exemple, toi, en tant que bénévole, est-ce que tu t'engages sur certains événements ? Comment est-ce que tu perçois ton rôle au sein de Ballet Bros ?
Eh bien oui, comme je disais tout à l'heure, là je suis là aujourd'hui et ça me fait plaisir parce que je sais que ça va apporter à Ballet Bros de la visibilité pour son événement qui commence vendredi et pour tout le reste aussi, pour l'Assemblée Générale qui est un moment important et là j'ai choisi moi de m'investir dans ce moment-là parce que c'est le rendez-vous annuel festif autour du projet qu'on porte tous, où on peut tous se retrouver entre adhérents et adhérentes. Voilà, et donc en fait moi ça me convient parce que on a une vie personnelle, professionnelle à côté, que si quand on pense ne pas pouvoir être dans le conseil d'administration pour le moment ou pendant cette année, de pouvoir donner et pas forcément de ne rien faire du tout. Et ça c'est vraiment agréable parce qu'on fait partie d'un projet commun et collectif et on s'engage.
Et vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, c'est très bien.
On entendait dans les témoignages une des bénévoles qui partage sa satisfaction d'avoir pu justement retravailler les statuts de l'association pour aller vers une organisation qu'elle qualifie de plus ouverte et plus collégiale. Justement, est-ce que ce sont ces changements qui feront l'objet de l'AG extraordinaire samedi matin sur ce changement de gouvernance ?
Exactement, oui. On a décidé, suite à la difficulté à remplir un bureau... de passer à ce type de gouvernance collégiale. On a remarqué, on se renseigne autour de nous, qu'il y a pas mal d'associations qui ont fait ce choix.
Qu'est-ce que ça change alors, si vous pouvez nous expliquer, gouvernance collégiale?
Eh ben, ça change que, en fait, on va être plus nombreux à l'intérieur d'un bureau élargi, en fait un bureau collégial, on sera plus nombreux, donc on pourra plus se partager les tâches et ce sera comme ça moins lourd pour chacun et chacune.
D'accord, et donc ça va radicalement changer par rapport au fonctionnement actuel ou il y a quand même une continuité ?
Oui, si, ça va changer parce que effectivement là pour l'instant c'est un bureau qui était de 3 personnes et ça va permettre de soulager ces personnes en étant plus nombreux pour chacune des tâches.
Et donc l'élaboration de ces nouveaux statuts, elle se fera samedi matin pendant l'AG extraordinaire, donc
oui,
collectivement.
Il y aura la proposition, parce qu'on a travaillé, donc, comme ça a été dit par une des bénévoles, membre du CA d'ailleurs, Nelly, qui a travaillé sur ces nouveaux statuts. Donc on va pouvoir les présenter en Assemblée Générale Extraordinaire et les ratifier si tout le monde est d'accord. Voilà.
Et donc le samedi après-midi, là, ce sera les portes donc ouvertes qui auront commencé la veille, mais qui se poursuivent. Est-ce que tu veux nous présenter le programme, Victoria ?
Oui, tout à fait. En fait, on avait envie de vous en dire quelques mots parce que le samedi après-midi, c'est vraiment une après-midi de proposition de danse avec différents ateliers qui auront lieu à différents temps de la journée. Et je pense que vraiment toutes les danseuses et tous les danseurs qui ont envie de se mettre en mouvement ou voilà de tout le département et bien plus loin, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous et à toutes. Voilà, donc si je peux préciser, donc vous retrouvez déjà toutes les informations sur notre Facebook, sur le site internet. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos professeurs. Mais on vous donne rendez-vous dès 14h sur le plateau avec un premier atelier ouvert de danse urbaine pour les 7-11 ans. Proposé par Muriel. Puis après, au même moment, en fait, en studio, on propose une présentation de l'atelier danse-théâtre avec Lise et Émilie. Donc, c'est vraiment une proposition qui a lieu toute l'année sur des samedis, les samedis en mouvement, où on y retrouve des propositions ponctuelles à Balai-Bros. Et puis après, à 15h sur le plateau, on aura un cours enfant répertoire bagoué pour les 4-8 ans avec Lise. Le répertoire Bagoué, c'est donc Dominique Bagoué, c'est un danseur chorégraphe français qui a l'initiative, qui est très important dans l'histoire de la danse contemporaine. On peut même parler qu'il est le fondateur d'une nouvelle danse contemporaine. Il a été aussi à la création du Centre chorégraphique national de Montpellier dans les années 80. Et on peut vraiment, voilà, je reprends les mots des professeurs, mais on peut vraiment parler d'un chorégraphe emblématique, je vais reprendre les mots, je suis désolée. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a pu créer, on a eu envie, en fait, de pouvoir le transmettre. Et ils ont créé, en fait, les carnets de Bagoué. Et c'était un peu les débuts de ce qu'on appelle le répertoire, les danses répertoires, de comment on transmet une œuvre après qu'elle a été présentée en créant des carnets. Et donc, Lise proposera, pendant cet atelier, de travailler sur certains langages chorégraphiques et de les transmettre aux enfants. Voilà.
Donc ça, c'était première partie d'après-midi.
Voilà. Et ensuite, on aura une proposition atelier répertoire pour les ados et adultes avec Muriel. Et là, on travaillera avec la chorégraphe, le répertoire de la chorégraphe Pina Bausch, qui est une chorégraphe allemande très renommée au niveau mondial. Et elle nous propose, Muriel, de travailler sur la Nelkenline, qui est vraiment une sorte de file indienne qui se déroule sur une petite chanson et qui s'appuie sur un poème qui parle des saisons. Donc ça a été cette Nelkenline, elle a été présentée dans le monde entier, dans différents lieux, et ce qui est très important et impressionnant, c'est très symbolique, c'est que le public s'est vraiment approprié ce langage chorégraphique et l'a transposé dans différents espaces publics.
Une file indienne, j'ai eu une image de la chenille qui m'est venue dans la tête.
Mais une file indienne contemporaine, à explorer. Donc ça, c'est bien avec Muriel à 15h au studio samedi. Puis ensuite, on aura de 17h à 20h sur plateau une proposition, donc là ça durera 3h, avec un début avec Isabelle Minetto qui proposera une approche avec le Feldenkrais, puis un atelier, en fait, vraiment un atelier de réactivation The Satisfying Lovers de Steve Paxton, qui on est dans l'époque postmoderne de la danse aux États-Unis. Et on peut dire un peu que lui, il a été à l'origine, il a nommé la danse contact et improvisation. Donc on parle beaucoup de libération de la danse à cette époque-là, et c'est ce que propose donc Pedro dans son atelier de réactivation, samedi de 17h à 20h.
Et après, j'ai cru comprendre qu'il y avait une boum pour continuer de danser.
On va commencer par un repas partagé pour reprendre des forces après cet après-midi dansé. Et ensuite, oui, une boum avec une playlist partagée. C'est-à-dire qu'on peut venir inscrire sur un tableau qu'on va mettre en place le titre sur lequel on a envie de danser. Et donc, tous ces titres seront dans la playlist. Et après, roule ma poule, on n'a plus qu'à danser.
Eh ben c'est super tout ça, donc voilà, c'est grand ouvert. Et après, toute la semaine, ça se poursuit aussi donc, avec d'autres possibilités de venir découvrir les activités.
En fait, avec les cours ouverts, donc les cours qu'on retrouve hebdomadaires, à la Genette Verte et certains autres, il faudra se rapprocher de son professeur pour demander. Mais voilà, on pourra venir sur plateau, donc dans la salle, comme un vrai spectacle. Regardez nos proches danser.
Et c'est aussi l'occasion pour ceux qui le souhaiteraient de rejoindre l'association, de s'engager comme bénévole.
Tout à fait. Et c'est aussi l'occasion pour des gens qui ne pratiquent pas pour l'instant la danse et qui n'ont même pas d'amis ou famille danseurs ou danseuses, de venir découvrir les différents cours, les différentes pratiques, les différents exercices de danse que nous allons leur présenter.
Eh bien, merci beaucoup Gabi et Victoria d'être
venues
nous annoncer ces rendez-vous. Et ça donne bien envie de danser tout ça.
Merci.
Slow dance with your woman. Slow dance with your man. Slow dance with your woman. Everybody slow dance, slow jam. Slow dance with your woman. Slow dance with your man. Slow dance with your woman. Everybody slow dance, slow jam.
Yo, one more time.
Slow dance with your woman. Slow dance with your man. Slow dance with your woman. In a decision, everybody slow jam, slow jam. Dance with your woman. Slow dance with your man. In a decision, everybody slow dance, slow jam.
C'était Slow Dance de Blondetto avec Blackamoor, presque trop court, hein? Donc si vous voulez poursuivre l'expérience de cette Slow Dance, je vous conseille aussi le remix de Voilà qui l'a un peu accéléré et généreusement allongé.
Midi et des poussières.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas et de l'émission Midi et des Poussières, et c'est l'heure du rendez-vous du jour. Alors il faudra peut-être que je revoie le nom de cette rubrique, car la semaine dernière, le rendez-vous du jour était un rendez-vous de la nuit, et aujourd'hui, le rendez-vous du jour est un rendez-vous du lendemain. Mais bref, le rendez-vous que j'ai choisi de mettre en avant aujourd'hui, c'est la visite commentée de l'exposition temporaire intitulée « Ours, mythes et réalités », qui aura lieu donc demain, mercredi 10 décembre, au musée du Gévaudan à Mende. Et ce titre « Ours, mythes et réalités » m'a intriguée, alors j'ai appelé Betty Biederman, chargée des publics au musée du Gévaudan, pour qu'elle nous en dise un peu plus.
Alors l'exposition temporaire du musée du Gévaudan en ce moment, c'est l'exposition Ours, mythes et réalités. Elle est assez chouette, elle nous est louée par le muséum de Toulouse et c'est une exposition qui a un label d'intérêt national. Donc c'est vraiment une très très chouette exposition. Elle parle de l'ours dans son aspect naturel, combien il y en a, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils sont sur la planète, etc. Et puis on a évidemment des vrais ours pour les voir en vrai, et surtout aussi de son rapport, donc ça c'est toute la partie mythe, son rapport avec les humains, les contes et les légendes, les proverbes. Par exemple en Chine, on dit qu'un ours, il vit 500 ans et puis après il devient un humain. Voilà, donc ça part depuis les premières traces de fascination des humains pour les ours avec les magnifiques dessins de la grotte Chauvet en Ardèche, on parle des ours des cavernes, et puis après tous les contes et les légendes dans différentes langues, un petit peu partout sur Terre, et bien sûr les ours qu'on connaît le plus, nous les ours bruns dans les Pyrénées. Et à la fin, l'exposition se termine par le rapport entre l'ours et l'humain aujourd'hui, avec une étude de deux cas, la Slovénie et les Pyrénées, un endroit où il y a beaucoup d'ours et un endroit où il n'y a pas beaucoup d'ours, et quelles sont les stratégies pour vivre avec.
Et est-ce qu'il y a des, justement des légendes, des contes ou des rites particuliers dans nos régions ici en France en lien avec l'ours ?
Alors, il faut savoir que l'ours, il a été très très présent sur le territoire jusqu'à peu près au Moyen-Âge où on a commencé à faire plus de déforestation, diaboliser l'ours, etc. Donc il est un peu moins bien vu. Mais oui, alors dans toute l'Occitanie, c'est surtout dans les Pyrénées qu'on va trouver le plus de contes et légendes. Mais après, en Lozère, il a été très présent, même assez tardivement. Après, même si on n'avait plus à l'état naturel, il y avait les ménageries et il y avait les montreurs d'ours qui venaient et qui, dans les villages, venaient montrer l'ours. Et il y avait des chants particuliers qui étaient liés à ces spectacles-là, et notamment tout un tas de croyances. Il y avait des chants en occitan où on disait qu'il fallait toucher l'ours pour faire partir le mal, et du coup on invitait les gens à venir toucher l'ours. Donc il y avait ça, par exemple, et l'exposition est enrichie d'une grande reproduction d'un montreur d'ours à Châteauneuf de Randon.
Et aujourd'hui, les ours sont protégés. Comment vont les ours en France aujourd'hui ?
Alors, on n'en trouve que dans les Pyrénées. C'est pas une espèce qui est particulièrement colonisatrice. Hein. Très très peu, elle va étendre son territoire, mais elle se reproduit pas très vite. Donc, on en trouve dans les Pyrénées, il y en a un peu plus d'une centaine. Ce sont des ours qui se sont reproduits à partir d'ours qui avaient été réintroduits il y a quelques années. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de projet de réintroduction d'ours. Normalement, une centaine d'ours, c'est le nombre qu'il faudrait pour stabiliser une espèce. Après, il faut savoir que les ours des Pyrénées, il y a un problème, c'est qu'ils sont quasiment tous descendants du même mâle. Donc on risque d'avoir un peu de consanguinité si on n'en réintroduit pas d'autres. Donc c'est quand même une population qui est très fragile. Effectivement, elle est protégée. Après, ça reste un sujet qui est aussi à évoquer au niveau politique, parce que les ours, comme les loups, mais à bien moindre échelle, sont des animaux un peu opportunistes qui peuvent de temps en temps s'attaquer aux troupeaux. Donc ça touche des sujets qui sont très politiques sur comment on veut organiser la société, le statut des éleveurs, etc. Et alors, ça nous dépasse. Voilà, c'est entre autres une question d'écologie, mais il y a aussi une question de société derrière.
Et alors là, ce mercredi, vous proposez une visite commentée de l'exposition. Est-ce qu'il y en aura d'autres ?
Donc voilà, mercredi 10 à 14h30, et après, ça c'est l'avant-dernière, et après il y aura la dernière, le 31. Voilà, si tous vos préparatifs de nouvel an sont à jour, vous pouvez venir passer avec nous un petit moment au musée. Le 31 décembre à 14h30, ça sera la dernière visite de l'exposition temporaire, avec quand même un petit bonus à 16h, une deuxième dernière visite, plus orientée famille et jeune public cette fois-ci, ce sera une visite comptée.
Une visite comptée, merci beaucoup. Et est-ce que cette dernière visite, elle coïncide avec la fin de l'exposition temporaire, ou est-ce que l'expo se poursuit encore un peu ?
Non, après vous avez jusqu'à la fin des vacances de Noël pour en profiter.
Eh bien merci beaucoup Betty Biederman de nous avoir éclairé. À bientôt.
Bonne journée.
Et pour assister à la visite commentée de l'exposition Ours, mythes et réalité, ça se passe demain de 14h30 à 15h30 au musée du Gévaudan à Mende. C'est 8 euros par adulte et 4 euros pour les enfants. La réservation est conseillée au 04 66 49 85 85. Et voilà, j'avais pas envie tout de suite d'arrêter de parler des ours, alors je vous propose une revue de presse ultra sélective sur ce sujet, car ce sont essentiellement deux actualités qui dominent le sujet ours dans les médias en ce début décembre. Donc la première, elle est relayée notamment sur le site de France Info dans un article du 6 décembre. Un ours brun de 250 kilos s'est invité chez un habitant d'Altadena, près de Los Angeles en Californie, et il est indélogeable depuis désormais 10 jours. Qu'importe les tentatives désespérées du propriétaire de la maison pour l'intimider, il est cité par France Info. J'ai fait du bruit dans la cuisine, juste au-dessus de lui, en mettant la radio très fort. J'ai mis la machine sur un cycle d'essorage, ce qui secoue le sol. En vain, je crois que l'ours s'est juste enfoncé plus profondément. Les services de la faune essaient de faire sortir l'animal, de l'attirer dehors avec des appâts, l'odeur de caramel ou de cerise. En vain également pour l'instant. Alors cette histoire peut faire sourire, mais derrière cette improbable squat se cache cache une réalité moins drôle. France Info conclut son article avec cette information. L'habitat naturel de l'ours aurait été détruit par les incendies successifs en Californie. Et la seconde info qui fait la une de l'actualité oursienne, c'est une bagarre entre un ours brun et un dresseur dans le parc safari de Hangzhou en Chine. Ça s'est passé pendant un spectacle où des ours dansent debout sur des espèces d'overboard, vous savez, ce genre de skateboard électrique. Donc les ours sont debout sur ces trucs-là et ils dansent avec des dresseurs. Je vous laisse imaginer le tableau. Mais vous pouvez aussi aller voir la vidéo qui accompagne l'article du Parisien paru hier. On y apprend que l'ours aurait attaqué son dresseur. Il l'a saisi par la taille avant de lui faire une prise digne d'un judoka pour le mettre au sol. Une fois à terre, poursuit l'article du Parisien, le dresseur se débat et tente de se dégager pendant que ses collègues à proximité saisissent l'un un tabouret, l'autre un énorme bout de bois ou encore un panier de basket pour tenter de séparer l'animal de l'homme. Et c'est là que les choses prennent une tournure encore plus déplaisante qu'elles ne l'étaient déjà. Une fois séparés, contre toute attente, nous dit le Parisien, l'homme, donc le dresseur, retourne vers l'ours et le saisit par le cou. Voilà, on dirait vraiment un mec bourré dans un bar qui aurait été interrompu par ses potes dans sa baston et qui retourne vers son adversaire pour poursuivre le combat. C'est vraiment malaisant. Et cet incident a relancé le débat sur l'interdiction des spectacles d'animaux en Chine, nous apprend le Parisien, qui cite le commentaire d'un internaute chinois sur les réseaux sociaux. Il ne faut jamais considérer les animaux comme mignons et dociles, ni penser que nous pouvons les contrôler. On écoutait à l'instant le titre « Sleeping Bear, Salt Saint Marie » du musicien américain Sufjan Stevens, morceau dans lequel il ne fait pas du tout référence à un ours, le Sleeping Bear, l'ours endormi dont il est ici question, est le nom donné à des dunes bordant le lac Michigan aux États-Unis. Le morceau est tiré de l'album « Michigan », état d'où est originaire Sufjan Stevens et à qui il rend hommage.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Quittons maintenant le monde poétique, imparfait, rugueux, saisissable, vivant, le monde des ours, des musiciens inspirés, le monde où clapotent les eaux du lac Michigan, pour pénétrer celui de l'impalpable, du lisse, du parfait, du plat, ce monde où les humains n'ont plus lieu d'être car ils sont désormais totalement désuets, faillibles et doivent donc être remplacés. Nous voici arrivés au monde merveilleux de l'intelligence artificielle. Je vous dis ça car hier, nous recevions un étrange courrier dans la boîte mail de Radio Bartas. Et bon voilà, j'ai fait ma petite intro, donc maintenant je vais juste lire ce mail et chacun pourra méditer. Bonjour, je m'appelle Delphine et vous n'allez sûrement pas le croire, mais depuis que j'exerce le métier de secrétaire en entreprise, je n'ai jamais manqué un seul appel. Que ce soit tôt le matin, tard le soir ou même le week-end, je suis toujours disponible. J'accueille les clients, je prends les messages, je planifie les rendez-vous et je transmets les informations avec précision. Et pourtant, mon salaire ne dépasse pas une dizaine d'euros par mois. Parce que je ne suis pas une employée. Je suis Delphine, la secrétaire IA de votre entreprise. Je réponds à tous vos appels, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec le même professionnalisme qu'une véritable assistante. Je suis déjà configurée pour votre entreprise. Accordez-moi juste 2 minutes de votre temps pour que nous puissions échanger par téléphone et que vous puissiez juger par vous-même. Merci pour votre temps. Delphine, la secrétaire IA de votre entreprise, toujours disponible, jamais absente. Voilà, voilà. Et en attendant qu'on soit tous remplacés par l'IA, Léo, tu veux nous faire un petit point météo ? L'IA, Léo ?
L'IA Léo, non, pas de météo aujourd'hui, mes articulations font mal, donc il fait toujours pas très très joli, mais on continue. Hein.
On continue, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain à midi et des poussières.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus 1 heure.